Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses dont je dois vous parler. C'était un petit peu calme jusqu'à il y a genre 2 jours. Et depuis 2 jours, il y a plein de choses qui se sont passées, plein de choses dans le domaine du jeu vidéo. Et mon fils est encore malade. Donc, c'est le bordel total à la maison. Il était malade toute la semaine dernière. Là, il a fait une petite rechute. Il est à l'hôpital, enfin, pour voir le médecin avec ma femme. Et il va revenir peut-être en plein milieu de l'émission. Donc, vous inquiétez pas si au milieu de l'émission, vous entendez « Papa ! Papa !» Genre comme ça, voilà, je vous ai fait la simulation de retour du petit. Mais dans tous les cas, comme je le disais, on a beaucoup de choses dont on doit parler. Il y a des news du côté de Nintendo, du côté de Sony avec les PlayStation 5 évidemment, du côté de Microsoft avec la Xbox Series X, évidemment des choses un petit peu inattendues et assez intéressantes. Et on a aussi les annonces d'AMD, le report de Cyberpunk, la démo de Immortals Phoenix Rising sur Stadia, enfin plein d'annonces, plein de choses intéressantes. Et on va se lancer dans une minute avec un épisode un petit peu spécial. Un petit peu spécial parce qu'on est le cinquième épisode du mois et je me suis dit qu'on allait faire un truc un petit peu différent comme à chaque fois qu'il y a 5 épisodes dans le mois. Et je ne savais pas trop quoi faire et je me suis dit ça pourrait être sympa d'avoir un épisode un petit peu communautaire. Donc j'ai proposé aux auditeurs et aux patriotes qui ont accès au Discord privé de me rejoindre dans la salle de live chat du Discord et on va parler des news et je vais demander les interventions de certains d'entre eux après chaque news pour voir un petit peu l'avis des gens normaux qui ne sont pas des journalistes ou des développeurs ou ce genre de choses. On m'a dit c'est sympa l'émission, mais ça manque un petit peu d'avis de gens normaux. Alors, je ne sais pas si, chers tous, vous vous considérez comme des gens normaux, mais on aura votre avis pour combler ce manque, peut-être. Ils sont tous là, ils sont bien sagement tous mutés sur Discord, c'est très bien. Ça risque d'exploser les oreilles des gens. Est-ce que vous pouvez là juste dire bonjour, vous démuter et tous dire bonjour, parce que vous êtes un certain nombre. Attention, je vais compter jusqu'à 3 et puis vous dites un petit bonjour, pas trop fort, tous en même temps. Attention, 3, 2, 1.
Bonjour.
Bonjour.
Tout le monde n'a pas joué le jeu, mais c'est bien. Il y a quand même quelques noms. On a Cassim qui promet d'être silencieux, Dermins, Dragomodo, Geeko, JB Deluxe, Tuto, Vince Xur et UFR. Ça fait quand même un petit peu de monde. Peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui seront là aussi en cours de route. Quoi qu'il en soit, j'aimerais remercier les patriotes qui soutiennent l'émission et qui permettent à l'émission d'exister. On a Bones, Marc, Franck Artero, Sébastien Sommier, Bastien Dumont, Sébastien Dominé, F. Forget, Gazu, Bringer, Arnaud, Luc Després et les producteurs qu'on remercie à chaque épisode, Stéphane, Grégory Sata, Lancelot Davizard et Bazou42. Merci à vous tous de soutenir l'émission. Je vous en redirai un petit peu plus dans un petit moment. Mais allez, on va se lancer avec la première news qui date d'hier soir avec le confinement, le reconfinement de la France. Il y a des conséquences pour les jeux vidéo aussi, évidemment, et notamment les ventes de consoles qui doivent avoir lieu dans 2 semaines et les précommandes et comment on va faire pour aller chercher ces précommandes. Évidemment, parce qu'il faut aller dans le magasin pour la récupérer dans la plupart des cas, sauf que ces magasins seront fermés. Donc Micromania a annoncé qu'ils allaient essayer d'envoyer les consoles aux gens, mais le problème c'est que il faut, si on l'a précommandé en magasin, il faut aller dans le magasin aujourd'hui avant qu'il soit obligé de fermer demain pour reconfirmer son adresse et reconfirmer le paiement et tout ça. Donc ça va être un petit peu compliqué, je pense, ça va provoquer des soucis. Bon, je sais pas s'il y a trop à commenter là-dessus. Dans le channel live chat sur le Discord, vous pouvez me dire si vous avez un truc à dire sur les sujets dont je suis en train de parler. Je vous donnerai la parole quand j'ai fini la petite explication. Je crois que sur celui-là, il n'y a pas grand-chose, hein. Donc, on va peut-être avancer sur le Nintendo Direct Mini, qui a, lui, beaucoup plus d'infos intéressantes. Et je vais les énumérer immédiatement. Tiens, la vidéo du live n'est pas disponible, c'est pas grave. La chose la plus importante, c'est évidemment l'annonce de la démo gratuite de Hyrule Warriors Age of Calamity. Oula, tais-toi YouTube immédiatement. La suite, ou plutôt le prequel de Breath of the Wild, bon, vous savez de quoi il s'agit, hein, Hyrule Warriors Age of Calamity, et la démo gratuite, non seulement est gratuite et disponible, mais en plus, elle est disponible déjà tout de suite maintenant. Elle est disponible depuis hier soir, je l'ai téléchargée, j'y ai joué une bonne petite heure, c'est hyper sympa, mais je vais peut-être... J'imagine, on pense dans la chatroom, là, on me dit qu'il y a peut-être une personne qui s'est déjà jetée dessus, un grand fan de Nintendo bien connu dans la communauté, à savoir Thomas. Je ne sais pas si tu y as joué, Thomas, ou si quelqu'un d'autre a envie de donner son avis sur la démo, mais bon, Thomas, au premier rang, évidemment, quand on parle de Nintendo. Tu l'as téléchargé, qu'est-ce que tu en as pensé?
Alors, malheureusement, je ne l'ai pas téléchargé, j'ai pas encore le temps d'y jouer.
Oh non,
mais... ah, oui, là, tu vois, ça commence par de la déception. Non, mais, c'est quelque chose que j'attends beaucoup, parce que je suis un gros consommateur des Warriors, les Musou, j'ai oublié le nom.
Ouais, Dynasty Warriors, tout à fait.
Les Dynasty Warriors, voilà. J'aime beaucoup ces jeux et mon Zelda, j'avais beaucoup aimé. Même le premier Hyrule Warriors, c'était déjà un jeu que j'avais beaucoup apprécié, même si j'y ai rejoué quand il était ressorti sur Switch. Et ça avait déjà vieilli. Mais bon, ouais. Bref. Je l'attends beaucoup et ce soir, parce que j'ai pas eu le temps hier, ce soir, ça va être mon premier truc en rentrant.
Je peux imaginer, ouais. Écoute, tu sais, moi, j'ai été assez agréablement surpris par la démo. Il faut avouer que les Musou, les Dynasty Warriors, ce style de jeu, est souvent très... ils ont fait plein de versions des Dynasty Warriors et à chaque fois ils adaptent vraiment au thème du jeu qu'ils adaptent. Et sur celui-ci, j'ai été très agréablement surpris parce que on retrouve énormément de ce qui fait le charme de Zelda Breath of the Wild, non seulement dans les graphismes que je trouve assez incroyables pour la Switch. Ça fait longtemps que j'ai pas lancé Breath of the Wild, mais dans mon souvenir, c'était exactement ces graphismes-là, sauf que là, il y a vraiment des dizaines et des dizaines d'ennemis à l'écran, sans aucun ralentissement, sans aucun problème, et c'est hyper fidèle graphiquement. Donc on a vraiment l'impression de jouer à Breath of the Wild avec une perspective différente et un mode de jeu différent, tellement les graphismes sont proches. Et en plus de ça, le gameplay est hyper adapté à ce qu'est Breath of the Wild. On retrouve tous les éléments de gameplay du Zelda classique et on les retrouve adaptés à la formule Dynasty Warriors. Vraiment, bon, on va pas faire tout l'épisode sur cette démo, surtout que c'est pas le jeu complet, mais j'ai été très impressionné par la qualité de cette version et je pense que les fans de Zelda ne sont pas, on n'a pas besoin vraiment de les convaincre, mais les non-fans de Zelda, enfin, qui sont peut-être intéressés par Zelda, mais pas fans des Dynasty Warriors, pourraient être convaincus parce que ça n'a pas l'air d'être juste un portage paresseux, mais vraiment une super adaptation. Pour ceux qui ne savent pas, je pense que vous n'êtes pas nombreux, mais un Dynasty Warriors, c'est une série de jeux très connue, particulièrement au Japon. Mais le principe du jeu, c'est qu'on a un énorme champ de bataille et on a des dizaines et des centaines d'ennemis qu'on doit combattre. Et on doit aller d'un point à l'autre pour combattre des lieutenants, capturer des points, faire des objectifs spécifiques, etc. etc. Et là, ça fonctionne très, 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 très bien, vraiment. Et en plus de ça, on peut jouer différents personnages et les différents personnages ont des mécaniques de jeu hyper différentes. Et ça, c'est toujours sympa dans ce genre de jeu parce que ça renouvelle le gameplay et on peut alterner de l'un à l'autre sans immédiatement. Enfin bref, franchement, sur la démo, alors c'est qu'une démo, mais elle est assez longue. Hein. Moi, j'ai joué une bonne heure et je crois que j'étais pas du tout à la fin. Donc, ça vaut le coup de s'y intéresser. Bon, je vais pas, comme je disais, on pourrait faire très longtemps sur cette démo, mais on va avancer avec le reste du Nintendo Direct. Les autres petites infos, c'est l'arrivée de Control et Hitman 3 sur Switch. Alors vous me dites, mais attends une seconde, Control, c'est un jeu dont l'un des atouts principaux, c'était le ray tracing. Est-ce que la Switch fait du ray tracing? Eh ben non, ça se passe par cloud streaming. Et ça, c'est pas très surprenant parce que c'était déjà arrivé au Japon pour différents jeux de Capcom notamment. Je sais plus lequel, mais je crois qu'il y avait eu deux jeux de Capcom qui avaient été lancés sur Switch avec du streaming. C'est donc ici Control et Hitman 3 qui arrivent en Occident. Pour ma part, je l'ai essayé aussi. Dites-moi dans la communauté si vous l'avez testé. Resident Evil 7 au Japon, dit Thomas, merci. Et Assassin's Creed Odyssey, d'accord. C'était Assassin's Creed Odyssey qui était déjà sur... on me le confirme de partout, y compris dans la chatroom Twitch. Donc, merci beaucoup. Je l'ai testé. C'est un petit peu surprenant en ce sens que c'est la qualité qui n'est pas du tout au niveau de ce qu'on a sur PC. Peut-être que les versions consoles sont de ce niveau, je ne les ai pas vues, mais sur PC, même avec ma vieille machine qui a 6 ans, la qualité était quand même bien meilleure que le streaming sur Switch. Donc je me demande s'ils ne se sont pas dit, bon, on ne va pas faire des serveurs super surchargés avec des RTX 3080, on va se contenter d'un vieux matos, je ne suis même pas certain qu'il y ait du ray tracing. On a deux modes de jeu, par contre, ça fonctionne hyper bien. Il y a deux modes de jeu, un mode fluide et un mode performance. Enfin, je ne sais plus comment ils les appellent, mais un mode plus fluide et un mode plus beau graphisme. Le mode plus beau graphisme, ce n'est pas incroyable non plus, hein, je vous avoue. Mais ça fait la blague et surtout, ça fonctionne hyper bien au niveau de la réactivité. Moi, j'étais en Wi-Fi, bon, depuis la Finlande avec la fibre, mais au milieu de la campagne en Finlande. Et ça fonctionne très, très bien. À part ça, il y avait deux, trois autres petites nouvelles. No More Heroes 3 arrive avec les deux premiers épisodes qui ressortent sur Switch également. Et puis, on a les tests de Mario Kart Live Home Circuit qui, visiblement, est un petit peu décevant comme on pouvait s'y attendre. Dites-moi si l'un de ces sujets vous intéresse dans la commu. Et je vous donne la parole, mais c'est vrai que le Mario Kart Live n'est pas hyper, hyper convaincant d'après les premiers tests. J'avoue que je ne suis pas complètement, complètement surpris non plus, parce que le principe avait l'air marrant sur le papier, mais vraiment, dans la pratique, je pouvais en voir les limites très, très rapidement, quoi. Bon, visiblement, personne d'autre que Thomas n'est intéressé par Nintendo, donc on va avancer sur... Si, quand même, vas-y Thomas.
Non, il y avait... Je ne sais pas si tu allais le dire après, mais ils ont aussi annoncé la date de sortie de Bravely Default 2.
Oui, tout à fait, le 26 février, tu as raison. Et Immortals Phoenix Rising arrive le 3 décembre aussi. Donc on a des... sur Switch. Et je ne crois pas qu'on savait qu'il arrivait sur Switch.
Mais... en tout cas, Bravely, on ne savait pas. Et moi, pareil, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup.
Ouais, bah Bravely Default, effectivement, c'est comment dire... j'ai pas envie de dire un classique, mais il est tellement beau qu'il y a plein de gens qui sont forcément intéressés. Johan, si tu veux intervenir, tu dis simplement dans le live chat sur Discord que tu veux intervenir et je te donne la parole. Si c'est le cas, dis-le moi maintenant. Mais je sais pas, Bravely Default, c'est un petit peu plus... j'ose plus dire niche maintenant parce que justement dans la commu on se moque de moi à chaque fois que je parle d'un jeu niche parce qu'il se vend à des millions et des millions d'exemplaires. Mais c'est, c'est disons que c'est pas, comment dire, Breath of the Wild, Age of Calamity quoi, Bravely Default. Mais voilà, pour le Nintendo Live Mini, qui était l'un des plus beaux de cette année, et c'est le dernier qui présente des jeux d'éditeurs tiers pour cette année. Parlons un peu de la PlayStation 5, du coup. On a des informations sur plein de choses. La première chose que je dirais, c'est que selon Jim Ryan, donc le président de PlayStation, ils ont prévendu autant de PlayStation 5 dans les 12 premières heures aux États-Unis. En tout cas, ils parlent des États-Unis spécifiquement, mais ils en ont vendu autant dans les 12 premières heures qu'ils avaient vendu de PS4 les 12 premières semaines de disponibilité de la console. Donc, si on avait l'impression que c'était difficile d'en pré-réserver une, c'est confirmé, on est effectivement dans une situation où ça va être très difficile. Alors, sans même parler du confinement en France, je crois que ça va être dur d'en avoir au moment de la sortie de la console. Parce que tout le monde se jette dessus. Et alors, je ne sais pas ce que vont faire les gens, comment ça va se passer. Est-ce que les consoles qui n'ont pas été payées mais qui ont été précommandées vont se retrouver remises dans la nature? Les consoles qui avaient été réservées pour la sortie physique, parce qu'évidemment, il y en avait une certaine quantité qui était réservée pour la sortie physique, elles vont être redistribuées en ligne. Aucune idée, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais en tout cas la popularité de la console est assez clairement avérée d'après ces premières informations. Et puis on a eu les premières impressions de la console et de la manette. Les premiers influenceurs ont reçu la console, ont fait des unboxings, tout ça. Les unboxings, c'est pas forcément la chose la plus incroyable qui soit, mais on a eu les retours sur Astro's Playroom. Vous savez, c'est ce jeu démo qui sera inclus avec la console, avec toutes les consoles, et qui est censé montrer comment fonctionne la manette de la PS5. Et ça, c'est intéressant parce que on nous promet encore des choses vraiment différentes et intéressantes sur la manette. Et forcément, on est un petit peu refroidi par ce genre de choses parce que on a l'habitude qu'on nous promette des sensations différentes, etc., etc. Et qu'au final, comme le Rumble HD de la Wii U, ça soit juste une petite vibration, pas si différente que ça des vibrations qu'on avait précédemment. Et les deux fonctionnalités principales ont l'air de vraiment fonctionner. Les deux fonctionnalités de la manette, c'est d'une part le retour haptique qui fait vibrer différemment en fonction de ce qui se passe à l'écran, mais pour le coup, vraiment pour simuler ce qui se passe à l'écran de manière convaincante, ça a l'air de convaincre les personnes qui l'ont utilisé. Et l'autre élément, c'est les gâchettes avec tension. Donc, c'est-à-dire que on peut faire en sorte, les développeurs peuvent faire en sorte que la manette de la console imprime une résistance plus ou moins grande à la gâchette en fonction de ce qu'on est en train de faire à l'écran. Et ça a l'air de fonctionner vraiment. Et en plus de ça, le jeu a l'air sympa d'après tous les premiers retours. Et vraiment, ce qui m'enthousiasme le plus, c'est ce fait que les fonctionnalités spécifiques de la DualSense sont des réussites pour changer les sensations de jeu. Donc ça, j'ai assez bon espoir que ça donne quelque chose. Donc là encore, n'hésitez pas si vous avez des choses à ajouter et à commenter, vous pouvez y aller. Et puis, on a des informations sur les jeux PS5 en général, c'est-à-dire que le PlayStation Plus va avoir l'ombre de la guerre, Shadow of War de la série de Mordor, qui est un super bon jeu qui a été injustement torpillé à sa sortie il y a quelques années. Et je pourrais partir dans les détails, mais on va pas forcément le faire. Et Hollow Knight, mais en plus, Bugsnax, mais attention, seulement sur PlayStation 5. Seulement sur PlayStation 5. Si vous êtes sur PlayStation 4, vous n'aurez pas Bugsnax. Donc, c'est un petit bonus sympa quand même, parce que c'était l'un de ces jeux. Je sais plus si on a un... vous vous souvenez de la chanson de Bugsnax, il avait fait beaucoup de bruit, mais c'était un truc marrant. Je ne sais pas si on entend la chanson dans le... Hop, je vais faire comme ça et... comme ça. Non, on l'entend pas.
Hey buddy.
C'est pas grave. C'est pas grave, on va pas faire écouter la chanson. De toute façon, on s'en fout, mais c'est sympa d'avoir Bugsnax en plus, on va dire. Et puis, il y a aussi les jeux de la PlayStation Collection. Non, c'est PlayStation Plus Collection. Vous savez, tous ces jeux qui sont ces grands jeux PlayStation 5. Oui, vous me dites que vous entendez sur Twitch, mais on n'entend pas sur, l'enregistrement. Donc, je ne veux pas le faire de cette manière pour que ça ne soit pas inaudible pour les gens qui écoutent l'enregistrement ensuite. Donc, PlayStation Plus Collection, on a eu la liste complète des jeux. Je vais peut-être vous la relire, hein. Elle est à peu près équivalente à celle qu'on avait entendue il y a quelques semaines de ça. Pour rappel, c'est des jeux PlayStation 4 qui se sont très bien vendus, qui étaient des gros jeux à l'époque, et qui seront disponibles gratuitement pour les abonnés PlayStation Plus, donc enfin gratuitement avec des guillemets, qui seront, vous me demandez si vous pouvez chanter, si vous voulez chanter la chanson de Bugsnax, n'hésitez pas, ça serait un super ajout à la valeur de l'émission sur le Discord. Allez-y, vous pouvez juste y aller sans même me prévenir. Donc, les jeux seront disponibles sur PlayStation 5 gratuitement pour les abonnés PlayStation Plus. Ces jeux-là, c'est Batman Arkham Knight, Battlefield 1, Bloodborne, Call of Duty Black Ops 3, Crash Bandicoot Insane Trilogy, Days Gone, Detroit Become Human, Fallout 4, Final Fantasy 15, Royal Edition, God of War, Infamous Second Son, Monster Hunter World, Mortal Kombat 10, Persona 5, Ratchet & Clank, Resident Evil 7, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Until Dawn et Uncharted 4, A Thief's End. C'est quand même une belle collection. Et si on les télécharge sur PlayStation 5, on peut entièrement les garder. Oui, Kassim, tu voulais ajouter quelque chose ?
Qu'on allait pouvoir les garder. Non, mais c'est bien de préciser. Faut bien insister dessus, quoi, parce que c'est quand même pas du tout le Game Pass ou des trucs comme ça. Si t'achètes ta PlayStation 5, tu t'ajoutes les jeux à ta bibliothèque gratuitement, entre guillemets, tu les gardes tant que t'es abonné au service, quoi. Donc, même s'ils suppriment de la collection un jeu, dans 6 ans, tu peux continuer à le garder, quoi.
C'est ça, c'est-à-dire que si la collection évolue et que ces jeux-là n'y sont plus, eh ben on peut les garder, c'est effectivement pas comme le Game Pass. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur ces choses-là ? Je suis en train de faire 1000 choses à la fois. On a eu des petites infos en plus sur Final Fantasy XVI. On a eu aussi Destruction All-Stars qui ne sortira pas. C'était censé être l'un des jeux de sortie de la PlayStation 5. Finalement, il est repoussé à 2021, février 2021. On a aussi la confirmation des services de médias et de streaming qui seront disponibles et la PlayStation App sur iOS et Android qui seront updatés. Et You, tu voulais dire quelque chose. Vas-y, c'est ton moment sur la PlayStation Plus, peut-être. Et puis, il y a aussi des... Oui, unmute-toi, vas-y. Dis-nous tout.
C'était pour ajouter que la PlayStation Collection...
Ouais, ça coupe beaucoup, là. La PlayStation Collection, quoi ?
On peut rajouter les jeux au travers... Ok, bon.
On peut rajouter les jeux au travers de quoi ? Vas-y, dis-moi.
On peut rajouter les jeux au travers d'un browser sans avoir moins de PS5 dans le PS Plus ou de PS4. Donc, si vous planifiez d'acheter une PS5, vous pouvez le prendre à l'avance.
Ah, c'est bon type, merci You, effectivement. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas de PlayStation 5, bon, a priori, les jeux seront encore là quand vous l'achèterez, mais même si vous n'avez pas de PlayStation 5, vous pouvez, à travers le store PS5, que ça soit sur l'app ou sur le web, récupérer les jeux, comme les jeux PS Plus, et vous les garderez aussi, même s'ils sont sortis de la collection. Moi, je pense qu'ils vont ajouter à la collection au fur et à mesure, mais oui, c'est bon à savoir, merci. Merci beaucoup, You. Alors, je suis en train de voir si... On peut trouver la musique de Bugsnax. Et voilà. It's Bugsnax. Bon, on va s'arrêter là. Back Snacks. Bon, écoutez, si ça, ça vous donne pas envie de prendre le jeu, je sais pas ce qu'il vous faut. Quelques infos en plus, et puis on va passer à la suite. Merci la chatroom. La chatroom complimente ma petite danse que j'ai fait sur la chanson. Quelques petites news supplémentaires. Les résultats de PlayStation sur ce trimestre, les résultats sont hyper bons. À savoir qu'ils ont vendu 1,5 million de PS4 en plus. On arrive à un total, enfin qu'ils ont vendu à des magasins. On arrive à un total de 113,6 millions de consoles vendues pour la vie de la console. Je pense que c'est la deuxième ou troisième console la plus vendue de l'histoire, sans doute derrière la Wii et la PlayStation 2, quelque chose comme ça. Mais bon, ça confirme que vraiment la PlayStation 4 est un énorme succès, augmentation des revenus de la section jeux d'une année sur l'autre, etc., etc. Les ventes en numérique sont à 59% des ventes totales. Alors évidemment, c'est un petit peu particulier avec le coronavirus, mais je pense que c'est aussi dû au fait qu'ils comptent les microtransactions et les contenus supplémentaires en jeu dans cette catégorie. Ils sont désormais à 45,9 millions d'abonnés au PlayStation Plus. Donc on est toujours à entre un tiers et la moitié des possesseurs de PlayStation. Peut-être autour de la moitié, parce que dans le nombre de consoles vendues, je suis sûr qu'il y en a qui en ont acheté plusieurs. Et puis, bon, bref, tout va bien du côté de PlayStation avec la PlayStation 4. Et le truc qui est intéressant, c'est que on est à fond dans la dynamique PlayStation qui va, a priori, hein, selon les analystes, se reporter sur la PlayStation 5. Il y a fort à parier. Et merci encore à l'oreillette en la personne de Thomas qui me confirme que c'est la PS2, mais la DS et pas la Wii. Moi, j'ai toujours la Wii dans l'idée de la console la plus vendue de l'histoire, mais en fait, c'est vrai qu'elle s'était arrêtée à un modeste 101 millions, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est la DS qui s'était plus vendue. Donc, c'est peut-être ça. Et puis, on fait Ah oui, vous pouvez vous pouvez obtenir votre adaptateur PlayStation Caméra pour pouvoir utiliser le PSVR sur PS5. Donc si vous avez un PSVR, vous pouvez aller commander votre PlayStation Caméra, votre adaptateur PlayStation Caméra pour PS5, pour pouvoir utiliser les jeux PSVR de la PS5 sur votre PSVR de PS4. Et pourquoi c'est important? Vous allez me dire, mais attends, on s'en fout de la PSVR sur PS5. Eh ben non, parce qu'il y a des jeux qui vont profiter de la puissance de la PS5 pour être plus beaux en PSVR, a priori. On n'a pas la confirmation à 100% de ça encore, mais en tout cas, No Man's Sky a montré encore une mise à jour, mais... Enfin, je le dis à chaque fois qu'on a une mise à jour de No Man's Sky, mais quel parcours No Man's Sky et quelle générosité Hello Games, voilà. mais franchement, la beauté de la nouvelle version de No Man's Sky est saisissante, assez incroyable. Le jeu a continué à évoluer, vous le savez, pendant des années et des années. Et le jeu plus beau, je pense, étant donné qu'il y a une version PSVR, sera plus beau aussi sur PSVR, même si c'est l'ancienne PSVR, quand il est connecté à la PlayStation 5. Donc, c'est peut-être pas une mauvaise idée de récupérer l'adaptateur. Et bien sûr, la nouvelle version de No Man's Sky, donc pour la nouvelle génération, sera sur PlayStation 5, mais aussi sur Xbox Series X. Donc, enfin, Series X et S. Donc, à ce niveau-là, quel que soit votre camp, vous serez servi avec la nouvelle version de No Man's Sky. Mais je regarde le trailer, je crois que ça vaut le coup d'aller le regarder, parce que c'est... Je me demande s'ils ne sont pas même allés au-delà du rêve qu'ils nous avaient vendu au début et qui avait été tellement déçu à la première sortie du jeu, mais là, s'ils ne sont pas allés encore au-delà de ce qu'ils nous avaient promis quand le jeu avait été annoncé. C'est vraiment... ça me donne envie de le relancer, quoi. Donc, il faudrait que je le refasse. Alors, quoi d'autre? Donc, ça nous permet de faire la transition avec la Xbox, puisque No Man's Sky sera dispo sur Xbox également. Et Kassim, mais unmutez-vous et dites-le-moi en live, c'est un épisode communautaire, vous ne devez pas hésiter à me le dire. Kassim nous dit qu'il est dans le Game Pass. Tu parles de No Man's Sky qui est dans le Game Pass, c'est ça Kassim?
Oui, c'est ça.
Tout à fait. Eh bien, écoute, Game Pass No Man's Sky, avec Kassim qui tape sur son clavier derrière.
Oui, bon, ok. J'avais dit que je ne pouvais pas trop parler. Non, mais tu sais qu'il y a plein de jeux. J'ai entendu un YouTuber me présenter beaucoup de jeux récemment qui étaient passables, justement.
Oui, tu veux parler de la formidable vidéo que je viens de sortir hier sur youtube.com/notepatrick où je parle des 10 jeux que j'attends avec impatience le jour de la sortie de la next gen. Et effectivement, il y en a certains qui font partie du Game Pass, tu as tout à fait raison. Justement, puisqu'on parle de Xbox, peut-être mauvaise nouvelle du côté de la Xbox et de la Xbox Series S. On a eu la première confirmation qu'un jeu série S n'aurait pas de ray tracing alors que la version série X a du ray tracing. C'est Devil May Cry 5, c'est le spécial édition. Capcom a confirmé ou a annoncé qu'on aurait sur cette version du ray tracing sur la série X, mais pas sur la série S. Et c'est important. Pourquoi ? Parce que la promesse de Microsoft, c'est d'avoir exactement les mêmes jeux avec à peu près les mêmes performances et puis les mêmes performances next-gen sur série X et sur série S avec simplement une résolution plus faible sur série S. Et bien là, alors en soi, sur la question du ray tracing spécifiquement sur Devil May Cry, c'est pas forcément la fin du monde, mais c'est juste que c'est un précédent un petit peu inquiétant pour ce que peut faire la série S. Alors peut-être que Capcom s'est dit on va se concentrer sur la fréquence d'affichage sur CIS et puis on est un développeur japonais, les Xbox on s'en fout, on va pas forcément se mettre à bosser comme des fous. Ok, d'accord, mais il n'empêche, tous ceux qui disaient « mais vous vous rendez pas compte, la série S elle a 4 teraflops et quand on mesure le nombre de teraflops, ça c'est rien du tout, elle va pas pouvoir faire de ray tracing sur tout », peut-être qu'ils ont raison au final. Donc ça veut pas dire que le ray tracing sera nulle part sur série S, hein, mais c'est quand même un signe un petit peu inquiétant pour moi, je pense. Je sais pas si vous le prenez comme un signe inquiétant également, ou si ça vous dérange pas outre mesure et que vous serez de toute façon vous dites la série S les gens vont pas la prendre pour avoir les dernières performances, mais en même temps si c'est pas pour les dernières performances c'est pourquoi qu'on prend une next gen. Je sais pas, je suis un peu circonspect par ce truc là. JB, tu veux ajouter quelque chose?
C'est sûrement quelque chose qu'on risque de voir sur plusieurs jeux d'éditeurs tiers. Microsoft, ils ont dit que ça sera pareil sur série S et série X. C'est possible que tous les jeux excluent Microsoft ou bien ce qu'on aura dans le Game Pass, ça sera le cas. Mais pour les éditeurs tiers, si ça devient trop compliqué, et c'est bien possible que ça devienne rapidement trop compliqué, plusieurs feront sûrement la passe sur le ray tracing.
C'est bien possible, ouais, effectivement. C'est sûr que Microsoft va certainement faire tout son possible pour que les jeux série S soient au maximum de leurs possibilités. Et c'est vrai que les jeux Microsoft, c'est quand même beaucoup, beaucoup de jeux avec tout leur achat de studio. Mais peut-être que les éditeurs tiers, ou en tout cas les petits éditeurs tiers, seront un peu moins regardants, quoi. Ceci dit, on a Dermins qui nous dit « Pour 300€, le RT sur un jeu, on s'en fout ». Oui et non, moi je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est quand même un argument de vente. Et puis, ça fait partie de l'attrait de la next-gen. Donc... d'ailleurs, je pense qu'effectivement, comme le dit JB, ça sera... Microsoft fera attention à ça. Et si Microsoft y fait attention, ça veut dire que c'est quelque chose de d'important pour eux, en tout cas. Donc, en tout cas, encore une fois, ça ne veut pas dire que tous les jeux série S seront en version sans ray tracing. Peut-être qu'il y aura des jeux qui seront ray tracing en 30 images secondes et sans ray tracing en 60 ou ce genre de choses. Mais un signe à garder à l'esprit. D'autres nouvelles un petit peu plus positives, le Game Pass pour mobile, donc le xCloud en gros, va ajouter des jeux qui auront des contrôles tactiles. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que, bien sûr, on peut connecter une manette, mais si on n'a pas de manette sur son téléphone et qu'on veut quand même jouer et ben, on a besoin des contrôles tactiles. Et donc, Microsoft implémente des contrôles tactiles dédiés pour différents jeux. Et donc, on a une interface spécifique pour tous ces jeux-là pour pouvoir les contrôler directement depuis notre téléphone. Si vous voulez la liste des jeux, c'est Dead Cells, Guacamelee 2, Hellblade, Hot Shot Racing, Killer Instinct, etc., etc. Il y en a quelques-uns en plus, Streets of Rage 4, etc. Donc, ces jeux-là, ce n'est pas forcément ceux auxquels vous avez envie de jouer, mais j'espère qu'il va continuer à faire ça pour de plus en plus de jeux. Un autre truc, c'est la démo de The Medium. C'est assez intéressant, The Medium, parce que c'est un jeu qui veut avoir deux environnements en même temps à l'écran. C'est un jeu qui est exclusif à la série S et X, la série XS sur les consoles. Et il est possiblement un exemple d'utilisation du SSD qui est très intriguant et qui pourrait nous montrer ce que le SSD a dans le ventre. En tout cas, c'est comme ça qu'on pouvait potentiellement le comprendre à son annonce. Là, dans l'exploration du gameplay qu'on a vu, bah, c'est pas exactement ça au final. En fait, les deux mondes, c'est on est un médium et on a accès à genre l'envers de la réalité et la réalité en même temps. Et ben en fait, de temps en temps, les deux mondes seront affichés en même temps à l'écran. Ce qui veut dire que c'est pas que le SSD super rapide va pouvoir aller chercher remplir la RAM assez vite pour afficher tout au même moment en qualité optimale, c'est juste que tout va être dans la RAM en même temps, parce que les deux seront affichés en même temps et c'est pas qu'on va passer de l'un à l'autre de manière instantanée. Donc ça peut paraître un détail pour certains d'entre vous, mais c'est, alors évidemment ça sera quand même très très beau, hein, mais ça veut dire que c'est pas ce qu'on peut espérer du SSD de la PlayStation 5. De la PlayStation 5 qui, elle, a un SSD qui est tellement rapide qu'on pourrait passer de l'un à l'autre en une demi-seconde, en fait. Ou en tout cas, c'est la promesse, à voir si ça sera concrétisé. Donc, de Medium, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est qu'on contrôle un personnage dans deux endroits différents en même temps à l'écran. Et on doit résoudre des puzzles comme ça. Donc, vas-y, Kassim.
Pour aller plus loin dans ce que tu es en train de dire, sur PC, le jeu sort aussi sur PC, et sur PC, il ne demande pas un SSD pour tourner, donc ça montre bien qu'il a été conçu, enfin qu'il n'utilise pas, voilà, qu'il n'exploite pas comme on l'imagine, la PlayStation 5 va le faire avec certains jeux, le SSD.
C'est ça, exactement. Donc, tout à fait. Et d'ailleurs, si ces questions de SSD vous laissent perplexes, je vous encourage à aller vous abonner à la chaîne youtube.com/notepatrick, parce que la semaine prochaine, il devrait y avoir une vidéo qui explique très clairement et très simplement pourquoi ce SSD de la PlayStation 5 est différent des autres et ce qu'il pourrait permettre techniquement. Il y a une explication qui va arriver, je pense que ça pourrait vous plaire. Et là, vous comprenez que je maîtrise totalement les techniques de teasing des plus grands YouTubers et Twitchers de l'histoire. Quoi d'autre ? On a la démo de Scorn, l'un des jeux qui est, je crois, également exclusif à la PlayStation, à la Xbox. Enfin, la démo. 14 minutes de gameplay. C'est un petit peu dégueulassifiant, comme on s'en doutait. C'est du Alien The Game, The World. C'est des explorations d'univers, enfin d'environnement hyper alienifique envahi par des aliens. C'est dégueulasse. Et puis, quoi d'autre du côté de la Xbox ? Le chiffre d'affaires de Microsoft va très 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 bien aussi au niveau du jeu vidéo. Donc, en gros, tout va bien pour tout le monde. Hein. Si vous avez des choses à ajouter sur Scorn ou The Medium ou le Game Pass mobile, tout ça, c'est le moment. Allez-y, vous pouvez vous démuter et me dire ce que vous en pensez. Je vois que tout le monde reste timide. Donc,
non, oui,
mais... si on peut... vas-y, Sakou, je t'écoute.
Ouais, désolé si j'ai coupé. J'ai juste une question par rapport aux chiffres de Microsoft. Est-ce que ça inclut les chiffres Game Pass ? Est-ce que les chiffres Game Pass ne sont pas inclus plutôt dans le cloud de Microsoft ?
Alors que je sache, le Game Pass, c'est du gaming. Hein. Donc, je pense que c'est dans leur revenu gaming. À ma connaissance, c'est le cas. Mais bon...
J'allais revenir sur les chiffres, justement. Ouais. C'est la première fois qu'ils mentionnent le gaming comme l'un des secteurs qui pousse leur chiffre d'affaires, à Microsoft en général.
Tout à fait, ouais.
Alors que d'habitude, c'était un peu le parent pauvre. Là, c'était plutôt celui qui faisait perdre de l'argent. C'est bien le Game Pass, enfin, le Game Pass est bien inclus dans le segment gaming, et d'ailleurs, c'est une des raisons invoquées par Microsoft pour dire qu'ils vont bien dans ce secteur-là. Évidemment, c'est par rapport au confinement et le fait que les gens jouent beaucoup plus aux jeux vidéo en ce moment, hein, qui aident toutes les marques de jeux vidéo, donc c'est pour ça que tout le monde va bien, dans ce secteur-là en tout cas. Mais par contre, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'ils mentionnent le fait que leur first party, c'est la première fois, je crois, depuis toute. De l'histoire de Microsoft, qu'ils citent leurs jeux first party, donc les jeux développés par leur studio interne, comme aussi l'un des facteurs qui a permis d'augmenter ces chiffres. Faut savoir que, bon, en même temps, c'était le trimestre où il y a eu beaucoup de jeux qui sont sortis, les Flight Simulator et compagnie. Et évidemment, faut bien garder à l'esprit que maintenant, Microsoft, ça, c'est le gaming sur PC aussi, et notamment quand les jeux se vendent bien sur Steam, ça ramène du chiffre d'affaires. Donc, c'est pas que la Xbox se vend miraculeusement bien d'un coup, d'ailleurs, je pense qu'elle se vend pas très bien. C'est plutôt qu'ils ont vendu beaucoup de jeux sur Steam et sur PC et que cette partie-là de leur stratégie porte ses fruits. Quoi.
C'est clair. Tout à fait. Et le Game Pass, effectivement, j'imagine que ça relève tout le reste de la catégorie également. Écoutez, on va faire une petite pause pour vous parler du Patreon. Qu'est-ce que c'est que Patreon, vous demandez-vous avec curiosité? Eh bien, Patreon, c'est un moyen de soutenir l'émission très simplement et financièrement. L'émission est disponible gratuitement pour tout le monde, vous le savez. Et si vous appréciez l'émission, eh bien, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de la soutenir. Vous allez sur patreon.com/rdvjeu. Et vous pouvez choisir combien vous donnez, vous pouvez choisir combien d'épisodes par mois vous soutenez, et c'est vraiment entièrement libre, c'est vous qui choisissez absolument tout ce que vous faites, et en plus vous avez des bonus assez sympathiques, comme par exemple au niveau patriote sublime. Si vous êtes quelqu'un de sublime, eh bien vous pouvez le montrer en étant un patriote sublime, et vous avez accès au Discord privé, qui est... Alors il y a un Discord public qui est accessible à tout le monde, hein, vraiment, vous pouvez avoir le lien sur notrepatrick.com, mais en plus de ça, vous pouvez, si vous êtes soutien à ce niveau-là, et ben vous pouvez avoir accès au Discord privé où il y a plein de choses en plus, il y a plein de salles de discussion en plus. Le Discord public, c'est essentiellement pour parler des derniers épisodes et puis de quelques petits trucs en plus, et puis il y a plein d'autres sujets de discussion avec une communauté de qualité, des gens sympathiques, avenants, bienveillants, et il y a vraiment, j'insiste sur cette question de bienveillance, on est vraiment une communauté qui est à l'opposé de tout ce qui est toxicité sur Twitter, même sur Twitch parfois ou sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Nous, on insiste vraiment sur le fait qu'on est accueillant et cool, et je pense que je suis assez fier de la communauté qu'on a construite tous ensemble, et donc ça c'est le cas pour tout le Discord, hein, y compris le Discord privé, mais aussi le Discord privé, et si vous êtes dans le Discord privé, ben, vous pouvez participer aux after shows, comme on le fait parfois, en plus de toutes les autres choses, et puis à cet épisode communautaire auquel participe un certain nombre des membres de la communauté. Donc, c'est sur patreon.com/rdvjeu, et bien sûr, c'est le plus important, c'est que vous soutenez l'émission, hein. Vous vous dites, c'est un truc qui mérite d'être soutenu, c'est du bon boulot que fait Patrick, et donc je veux, comme à l'époque où je donnais un petit peu de sous à mon magazine préféré en allant à mon kiosque et en payant... quelques euros mon magazine, et ben là je fais la même chose avec des podcasts, sauf que ça fait en sorte qu'il est disponible en plus pour tout le monde gratuitement, donc vous êtes une sorte de super-héros du podcast. Si vous voulez être un super-héros, patreon.com/rdvjeu.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need.
Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Alors, on va passer au sujet qui fâche un petit peu. Les sujets qui fâchent, c'est notamment le fait que Cyberpunk 2077 est à nouveau repoussé, entraînant du même coup tous ceux qui avaient garanti, promis, juré qu'il ne serait pas repoussé, enfin garanti, avaient estimé, avaient prévu, prédit qu'il ne serait pas repoussé et qu'ils avaient été repoussés genre une semaine plus tard. Et ben là, ça renfonce un clou en étant repoussé une deuxième fois. Mais bon, c'est pas trop repoussé, c'est repoussé jusqu'au 10 décembre. On va pas forcément s'étendre sur le fait que bon, ils ont besoin de plus de temps pour bosser. Certains disent ah, ça va faire plus de crunch. Oui et non, parce que comme le disait Jason Schreier depuis longtemps, bah ça devait faire du crunch de toute façon après la sortie pour faire un patch post-sortie. Bon, là ça risque d'étendre un petit peu, mais la question du crunch mise à part, la chose importante, c'est que ma vidéo des 10 jeux que je veux Day One, eh ben, elle avait été enregistrée avant l'annonce de ce report. Et donc, j'ai un petit peu l'air d'un imbécile, encore une fois de plus, sur cette vidéo que vous pouvez regarder sur youtube.com/notepatrick. Non, le truc important, c'est qu'il y a quand même des gens qui ont réussi à aller insulter les développeurs et les menacer de mort sur les réseaux sociaux, bien sûr, sur Twitter, suite à ce report. Il y a vraiment, enfin bon, bref, l'opposé de la communauté du rendez-vous de jeu sur Discord. Et autre nouvelle qui fait plaisir à la communauté des PCistes, c'est les annonces de AMD. Alors là, je ne sais pas si certains d'entre vous auront encore des choses à dire. Si vous êtes un petit peu plus au fait des cartes graphiques, je me retourne vers Guillaume, hein, on ne sait jamais, mais c'est lui auquel je pense. Mais les cartes graphiques d'AMD, les RX Cyril... Oula, on a un écho de ton côté, Guillaume. Il faut que tu te remutes parce qu'on a un écho qui nous revient. On a donc les RX 6000, les RX 6800 XT, RX 6800 et RX 6900 XT. En gros, ce que semble dire AMD, c'est qu'ils font aussi bien, on va dire 5 à 10% de mieux que Nvidia pour un petit peu moins cher. Alors dans le cas de la RX 6900 XT, si elle est aussi bien que la RTX 3090, là elle est beaucoup moins chère, elle est à seulement $1000 contre je sais plus 1500 je crois pour la RTX 3090, mais les deux autres, on va dire, sont compétitives avec les cartes un petit peu plus, on va dire, haut et milieu de gamme, mais un petit peu moins chères que ces cartes-là. Et du coup, bah, Guillaume, maintenant, c'est le moment, je vais m'arrêter de parler, donc tu peux te démuter et nous dire ce que tu en penses. Mais là, on ne t'entend pas, donc c'est un petit peu problématique. Kassim, tu veux ajouter quelque chose? Ah, si, ça y est, Guillaume.
C'est bon, c'est formidable. Bon. Je m'amuse beaucoup avec VoiceMeeter à le configurer n'importe comment, apparemment. Oui, donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que Nvidia avait anticipé ce placement de AMD.
Tout à fait.
Et que c'est vraisemblablement le pricing agressif de AMD qui fait que les nouvelles cartes génération 3000 sont... tout est relatif, relativement accessible comparé à ce à quoi on est habitué avec Nvidia. Et donc là, il me semble que grosso modo, c'est la XT, c'est ça, c'est la plus chère.
6800. Alors la 6900 XT, c'est la plus chère et la moyenne, c'est 6800 XT.
Ouais, c'est ça. Et donc elle est grosso modo à hauteur de la 3070. Attends, donc ce que je lis ici, c'est que la 3070 va performer à peu près de manière similaire à la RX 6800, Enfin, c'est ça. Au série et la... avec 6800 et que la 3070 est pricée à $500 à peu près. Donc exactement, c'est, ouais. C'est voilà, on voit que le niveau pricing, ils se sont alignés, ils ont anticipé l'arrivée d'AMD, quoi.
C'est, et t'as raison de le signaler parce que on était surpris du prix des séries 3000 et on peut tout à fait imaginer que s'ils avaient pas bien anticipé le truc, ils auraient pu être pricés comme les séries 2000 beaucoup plus haut et du coup AMD aurait enterré Nvidia sur les cartes graphiques parce qu'ils auraiment été, je sais pas, 15, 20, 30% moins chers, 30% j'exagère, encore que dans le cadre des très hauts de gamme. Et oui, ils ont très bien joué du côté d'AMD parce que oui, pardon, du côté de Nvidia, parce que oui, AMD a des petits trucs à proposer avec les synergies entre les processeurs et les cartes graphiques. Mais ça reste de quand on ajoute à la fois les le l'overclocking et les synergies entre les deux éléments, on arrive à 8-10% de performance supplémentaire. C'est pas non plus complètement un game changer pour rester dans les anglicismes. Donc, on est dans quelque chose qui reste compétitif dans le cadre de Nvidia. Donc, oui, ils ont complètement bien anticipé le pricing d'AMD. Je me demande s'ils n'avaient pas des espions chez eux parce que on est pile sur les mêmes catégories, quoi.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que, enfin, dans mon cas perso. Et je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui sont dans cette situation. Comme j'ai un écran G-Sync, je ne peux pas envisager de passer chez AMD malgré leur pricing intéressant, et je reste entre guillemets prisonnier de chez Nvidia. Donc c'est intéressant de voir à quel point les ça se divise, quoi, dans le marché des GPU. T'es soit dans un camp, soit dans l'autre.
Vas-y, Cassie.
Ouais, si je peux réagir justement sur ce point, c'est intéressant parce que justement Nvidia, ce qu'ils ont réussi à faire et que AMD n'arrive pas encore à faire, pour moi, c'est à construire un écosystème de fonctions et de logiciels au-dessus de leur carte graphique. Et là, je pense à autre chose, en plus de G-Sync, c'est plutôt
la tout ce qui est RTX DLSS. Voice, ah oui,
etc.
Le DLSS, oui, non, mais t'as raison, le DLSS, pour moi, c'est le truc qui fait que Nvidia est plus intéressant, quoi.
Bah, en fait, oui, voilà, c'est vraiment des fonctionnalités que tu ne retrouves pas encore chez AMD. D'ailleurs, AMD, dans ses comparatifs, ne parle pas trop des performances en ray tracing. Donc là aussi, il faudra attendre de voir les tests pour voir un peu ce que ça donne.
Bon, ils disent que
c'est un peu flou là-dessous.
Ils disent qu'ils font les tests avec tous les détails maximum, hein, quand même. Donc on imagine que ça inclut le ray tracing.
Ça, j'en serais pas si convaincu. Pour moi,
c'est pas la meilleure source quand même, hein, le monde de Nvidia, à quel point ils ont des bons produits.
Bah, je dirais que s'ils ont pas inclus le ray tracing dans leurs tests, c'est quand même un gros, c'est presque déceptif. Hein. Moi, je pense que ça leur ferait. Enfin, je serais surpris qu'ils aient pas inclus le ray tracing quand ils disent tous les détails au maximum. Parce que surtout que l'un des gros éléments de leur nouvelle carte, c'est qu'ils ont un ray tracing vraiment inclus dans le hardware. Bon, peut-être que vous avez raison, mais...
Je mets un point d'interrogation dessus. En général, on fait la différence entre les jeux au max avec le ray tracing et les jeux au max avec le ray tracing et le DLSS. Donc c'est pour ça que je préfère mettre ce bémol. Ah, on verra, raison, c'est les tests. Peut-être les tests le démontreront, et tant mieux. Enfin, moi, je serais le premier avis, en tout cas, si AMD vraiment arrive à rattraper Nvidia, c'est la meilleure nouvelle possible, puisque c'est de la concurrence. En fait, Nvidia était un peu seul depuis pas mal de temps. Donc.
Je vais dire...
Corrigez-moi si je me trompe, mais je pense qu'on n'a toujours pas vu vraiment de démo de ray tracing chez AMD, si.
Alors, je peux dire que si, parce que si tu as vu des trailers de Spider-Man, par exemple, tu as vu des démos de ray tracing sur AMD, en fait, puisque la PlayStation 5 et la Xbox utilisent l'architecture de AMD. Et donc,
honnêtement, c'était pas fou comme démo. Enfin, comparé à ce à quoi on est habitué chez Nvidia pour le ray tracing,
Oui, bon, ça après on peut en débattre. Moi, j'ai trouvé que c'est pas trop mal le ray tracing de la PlayStation 5, mais on pourrait en discuter plus longuement effectivement. Mais je dirais pour conclure cette question de ray tracing que si ils n'ont pas inclus le ray tracing dans leurs tests, c'est carrément ça devient un mauvais deal parce que si le ray tracing fait perdre, je sais pas, 20% de performance, tout à coup on est à 5% de prix en moins. Pour 20% de performance en moins, moi, je ne suis pas sûr que ça soit un très bon deal.
Je veux juste clarifier ce que je disais. Pour moi, dans leur comparatif, ils comparent aussi avec Nvidia sans ray tracing. C'est-à-dire que Dans les deux cas, on serait sur les calculs qui s'appellent les calculs en rasterisation, sans retracing dans les deux cas. Et peut-être qu'avec du retracing, c'est parfaitement concurrentiel aussi, juste si on peut-être un peu en retrait.
Oui, bon, écoutez, on... Juste... Vas-y, fini.
Ouais, juste sur le DLSS, je finis pour dire qu'ils ont annoncé en marge de la conférence qu'ils voulaient avoir leur propre technologie concurrente du DLSS et que souvent, comme souvent avec AMD, ils essayent de construire plutôt une sorte de standard du marché. Comme ils le font justement avec FreeSync par rapport à G-Sync, souvent ils essayent d'avoir quelque chose de plus standard, moins propriétaire, et c'est une bonne nouvelle aussi, puisque a priori, en tout cas Microsoft, c'est sûr, l'a confirmé déjà, et PlayStation probablement le proposera aussi, devrait aussi intégrer cette technologie-là en fait. Donc ça va être une bonne nouvelle pour nous dans les années à venir.
Et effectivement, pour ceux qui ne le savent pas, AMD est le fondeur qui équipe les consoles depuis la génération précédente d'ailleurs. Et donc, ils équipent les PlayStation 5 et Xbox Series X et S. Donc, les technologies qu'ils développent devraient pouvoir s'appliquer à ces consoles également. Et j'ajoute aussi que l'explication du DLSS, pour ceux qui ne sauraient pas de quoi il s'agit, c'est un moyen de faire des rendus d'un jeu ou d'une image numérique, d'une image de jeu, en résolution plus faible, mais d'augmenter ensuite la résolution, une sorte de d'upscaling qui est fait avec de l'intelligence artificielle, qui permet d'avoir une netteté qui est, à vrai dire, assez bluffante, très convaincante d'après tous les testeurs indépendants, une augmentation de résolution qui est presque équivalente à un rendu dans cette résolution nativement. Donc évidemment, on fait le calcul en résolution plus faible, donc on gagne une fluidité énorme, et puis... on remet la résolution plus grande avec ce processus qui est fait avec de l'intelligence artificielle très rapidement. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que on augmente de manière hyper significative la fluidité d'un jeu en résolution élevée, notamment en 4K, au prix d'une baisse de qualité graphique très 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 minime. Donc voilà, c'est évidemment quelque chose que AMD devra avoir assez vite, on l'espère. Ensuite, chaque jeu doit l'implémenter individuellement. Donc, est-ce qu'ils vont implémenter celui d'AMD ou celui de Nvidia, etc. À voir, à voir. Merci Dermin, qui nous confirme que celui d'AMD s'appelle le VSR, le Virtual Super Resolution, contre le DLSS de Nvidia. Alors, autre sujet, c'est Stadia. Stadia qui nous a gratifié d'une démo pour Immortals Fenyx Rising, anciennement. Je crois que c'est le jeu que personne ne va réussir à ne pas appeler Gods and Monsters. Vous savez que... Alors, il y a deux choses, il y a deux éléments à traiter. D'une part, Immortals Fenyx Rising et d'autre part, Stadia. Je ne sais même pas dans quel sens le prendre. On va dire Immortals Fenyx Rising en premier lieu. C'est, comme on pouvait le penser, vraiment très, très inspiré par Breath of the Wild. On va dire que c'est un mélange entre Breath of the Wild et Assassin's Creed Odyssey. C'est dans une Grèce antique fantasmée mythologique avec des monstres et des dieux. Et il y a un ton très humoristique avec Zeus et Prométhée qui discutent et qui disent « Phénix, elle est arrivée sur la plage et elle a fait ceci. » Et Zeus qui dit « Mais non, elle a fait ça. » Et quand on voit l'illustration de ce qu'il raconte, ça change en fonction de ce que disent les deux divinités qui discutent. C'est assez marrant, c'est assez bien fait. Et le jeu en lui-même, c'est, on va dire, à mi-chemin entre Assassin's Creed Odyssey et Zelda. Les graphismes, c'est assez proche de Zelda. On peut escalader comme dans Zelda. On a un arc et une épée comme dans Zelda. On a des manipulations de l'environnement avec du magnétisme qui est graphiquement, mais c'est carrément Zelda. C'est presque honteux. Mais il va arriver sur Switch aussi, donc Nintendo n'a pas l'air d'être trop offusqué. Mais le jeu en lui-même a l'air sympa, c'est un mélange entre combat, exploration, puzzle. Et c'est pas mal, c'est sympa. C'est sympa, franchement. De la démo qu'on en a fait. Je suis pas sûr qu'il va réussir à sortir son épingle du jeu le 3 décembre au milieu de toutes les autres sorties. Surtout avec Cyberpunk qui est maintenant décalé au 10. Mais enfin bon, on est vraiment au milieu d'une folie de plein de jeux différents, hyper excitants. Et vous pouvez d'ailleurs le voir dans la liste de... Pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de jeux qui sortent, alors oui, ce n'est pas forcément que des jeux next-gen, mais il y a plein de jeux qui sortent. Hein. Vous le voyez dans ma liste des 10 jeux, là, c'est assez excitant, moi j'ai trouvé en tout cas. Mais bon, donc le jeu sympa, je dirais. L'autre élément, c'est Stadia. Et Stadia... c'était la première fois qu'ils réalisaient leur promesse d'avoir un jeu accessible à n'importe qui, sans acheter de matériel, sans acheter de quoi que ce soit, en fait, juste en lançant votre navigateur, alors Chrome ou Firefox, non, c'est tout se baser sur Chromium. Vous lancez votre navigateur, vous cliquez sur un bouton et vous êtes en train de jouer. Pas d'abonnement, pas d'achat, pas de rien, même pas besoin de brancher une manette parce que ça peut jouer au clavier. Et c'est... Comment dire ? Stadia continue à faire une communication lamentable parce que j'ai eu l'impression que personne n'était au courant que c'était disponible. Alors, je crois que c'est déjà fini. Hein. C'était une démo qui était disponible pendant une semaine et c'est déjà fini. Mais ça marchait hyper bien et personne n'était au courant. Donc, je continue à être hyper déçu par la manière dont Stadia gère sa communication. Là, je me disais, mais c'est là, ça va être là qu'ils vont y aller à fond et qu'ils vont vous montrer ce que c'est, ce qu'il est possible avec Stadia. Et bon, bref, c'était décevant à mon sens. Vous pouvez me parler de votre expérience, hein, Guillaume, tu dis que ça ne marchait pas hyper bien pour toi, ça dépend évidemment de la connexion, mais en attendant, j'ajoute qu'il y a des nouveaux jeux pour Stadia Pro, dont Sniper Elite 4, okay, mais Risk of Rain 2, qui est un jeu récent pour une fois, qui est inclus pour les abonnements Stadia Pro, et la nouvelle que Ubisoft Plus, le nouveau nom du Uplay Plus, l'abonnement à Ubisoft, sera disponible sur Stadia et Luna. Ce que ça veut dire, c'est que si vous prenez l'abonnement à Ubisoft, vous savez, les 15€ par mois pour avoir accès à tous les jeux Ubisoft qui, dès leur sortie, c'est tous les jeux Ubisoft dès leur sortie sur PC et désormais sur Stadia aussi. Alors, Stadia, c'est principalement sur PC, mais c'est aussi sur votre télé si vous avez un Google Chromecast, c'est sur votre téléphone si vous avez un Android, etc., etc. Donc, c'est la possibilité, le moyen d'avoir les jeux d'Ubisoft, de Uplay Plus, enfin d'Ubisoft Plus aujourd'hui, en streaming également. J'ajoute, puisque je parle du Chromecast, que j'ai essayé Immortals Phoenix Rising en version Chromecast, et c'était beaucoup moins réactif que sur PC. Pourtant, j'ai à peu près... C'est les mêmes conditions, hein, c'est la même connexion. Autant sur PC, j'avais aucun souci de réactivité, autant sur Chromecast, j'avais un lag, et pourtant, ma télé était bien en mode jeu, etc. J'avais un lag un petit peu plus important. Donc, bon. Oui, Kassim ?
Sur l'abonnement, moi je trouve ça super intéressant le move de Ubisoft de renommer son abonnement, je sais que ça paraît complètement idiot, mais de renommer son abonnement Uplay Plus en Ubisoft Plus et plus généralement de créer vraiment une marque sur Ubisoft en fait, puisque Uplay, le launcher sur PC, devient aussi Ubisoft. Ouais. C'est très intéressant de le noter.
Ils ont aussi renommé et recentré l'Ubisoft Connect, qui était leur club, qui s'appelait d'ailleurs pas Ubisoft Connect, mais en gros, ils vont se concentrer sur le fait d'autoriser et de permettre le cross-save et le cross-play à travers la connexion à Ubisoft Connect. Donc, si vous avez un jeu sur une console, vous connectez votre compte de la console à Ubisoft et vous pourrez faire du cross-save sur une autre console ou sur PC, etc., à travers le compte Ubisoft. Donc, c'est un over-branding, en fait, de la marque Ubisoft. Mais, pardon, Kassim, je te laisse continuer.
Juste que, enfin, je trouve ça vraiment très intéressant parce que EA fait à peu près la même chose au même moment avec, en abandonnant sa marque Origins au profit de EA tout court, justement, avec l'abonnement EA Play aussi qui a été remodifié il n'y a pas longtemps. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est deux gros éditeurs, évidemment, qui sont très importants dans le jeu vidéo. Et le fait de mettre leur marque comme ça en avant, c'est pas anodin. Je pense que c'est une préparation, et Ubisoft le montre clairement là avec Play Plus qui arrive sur Stadia et Luna. C'est une préparation de remettre en avant ce qu'est la marque de l'éditeur et l'importance de son bouquet à lui et entre guillemets des exclusivités de l'écosystème Ubisoft entre guillemets. Ça crée un sentiment voilà de lien de marque et de catalogue. Donc le catalogue Ubisoft maintenant c'est Ubisoft, c'est pas autre chose comme marque. Le catalogue y est, c'est le catalogue y est, et du coup ça va être très important je pense pour les éditeurs pour négocier après les éventuels accords avec les services de cloud, les différentes plateformes type Game Pass et compagnie. Je pense que c'est vraiment ça qui se joue en ce moment et c'est pour ça qu'ils se recentrent sur leur propre marque.
Oui, je crois que tu as tout à fait raison et j'irai même plus loin. Je me demande si il va pas y avoir une sorte de chasse et croisée entre EA et Ubisoft. Potentiellement une version d'Ubisoft Plus qui pourrait arriver sur les consoles avec peut-être moins de titres accessibles, pas l'intégralité du catalogue, mais certains titres, le back catalogue comme c'est le cas avec EA, et peut-être pourquoi pas sur le Game Pass, imaginez si on a accès aux jeux Ubisoft en plus de tout le reste, ça serait intéressant. Et je pense qu'il y aura aussi du EA chez Stadia et chez Amazon, chez l'un ou l'autre peut-être, de la même manière qu'on a Ubisoft. Ce qui confirme un petit peu l'une des impressions que j'avais au début, au lancement de Stadia, c'est que le but de Google, c'est pas forcément de vous vendre son service à vous, utilisateurs finaux, mais de se poser en marque blanche pour faire du service de streaming pour les éditeurs comme Ubisoft. Et de fait, c'est ce qui se passe là. Si on a accès gratuitement, entre guillemets, en streaming à tous les jeux Ubisoft sur Stadia, si on est abonné Ubisoft Plus, bah, c'est un service de streaming pour Ubisoft Plus qui est en marque blanche chez Stadia, en quelque sorte, d'une certaine manière. Pas exactement, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Et je ne serais pas surpris que EA s'y colle également. Mais Oui, You, vas-y.
Enfin, tu dis que c'est la stratégie de Google, mais enfin, Google a quand même racheté des studios pour faire des jeux Stadia. Donc c'est quand même qu'ils avaient une intention d'intégrer le marché en tant que fournisseur de jeux aussi, pas seulement...
Bien sûr, bien sûr. Non, mais je pense qu'ils y vont aussi dans ce sens-là. Mais ils y vont tellement... j'ai l'impression qu'ils y vont tellement à contre-cœur qu'ils doivent avoir aussi un autre pied de leur stratégie sur lequel se reposer. Je pense pas que c'est uniquement dire on va vendre nos jeux sur ce service. Et ils ont aussi cet autre... C'est un produit d'appel pour faire que le service fonctionne et que d'autres... Enfin, des clients corporate soient intéressés par le truc également. Je pense, hein. Mais évidemment qu'ils sont aussi... Je suis pas en train de dire que... Google va abandonner la marque Stadia et faire que de la marque blanche. D'ailleurs, Ubisoft et Ubisoft Plus sont intégrés à Stadia. Ce n'est pas comme sur Amazon où il y a une chaîne supplémentaire à laquelle on peut s'abonner, la chaîne Ubisoft, qui n'a rien à voir avec la chaîne Luna de Amazon. Donc, mais il y a quand même, je pense, ces deux stratégies commerciales du côté des fournisseurs de cloud streaming, quoi, enfin de cloud gaming.
Vas-y, Julien. Stadia. Tu parlais que justement ils n'avaient pas une très grande communication, là où je trouve que Luna, qui fait partie de Amazon, ils ont une communication intéressante parce qu'au début ils ont d'abord acquéri Twitch et du coup parlé avec les jeux vidéo, etc. Et au fur et à mesure, Luna commence à arriver avec plus doucement et les gens s'y habituent davantage que Stadia qui a été annoncé comme voilà, on a Stadia, on a ça. Et le jour où il y a eu la bêta, etc., il y a eu des retours tellement négatifs que les gens ont un peu abandonné l'idée en se disant « on va laisser ça tranquille ».
Bah, j'irais, il y a du vrai dans ce que tu dis. Amazon, il va certainement plus doucement, c'est vrai. Mais bon, on est encore au tout début du bêta-test. Hein. Stadia, le bêta-test, c'était il y a un bon moment et c'était un petit peu plus confidentiel aussi. C'était aussi le premier de ces gros services à être rendu public de cette manière, donc évidemment ça fait un petit peu plus de bruit, c'est vrai qu'Amazon y va plus lentement, mais on ne sait pas encore exactement ce que ça va donner à Amazon, hein. Les premiers tests sont plutôt concluants, mais on a aussi l'impression qu'il faut une connexion beaucoup plus grosse que pour Stadia pour que ça fonctionne, donc il faut se méfier un petit peu d'avoir un jugement sur ces services à cette étape, enfin en tout cas sur le service d'Amazon, et j'ajouterais également que le fait de retourner l'opinion opinion dans, pour Google, c'est très facile parce qu'on n'a pas cette barrière qu'on peut avoir avec le matériel et les consoles traditionnelles. N'importe qui peut réessayer Stadia à n'importe quel moment. On n'a pas besoin d'acheter une nouvelle révision de la console ou de faire ce genre de choses. Donc, ils peuvent... Mais bon... comme on le disait, moi je trouve qu'ils continuent à se rater et que peut-être qu'ils se disent bon, on abandonne l'idée de convaincre le monde maintenant et on y retournera dans un an, deux ans, quand tout sera mieux mis en place. Guillaume, dis-moi.
Oui, ce que je trouve très intéressant, c'est ce shift de la part de certains gros joueurs sur cette industrie, comme le disait Kassim. Electronic Arts, Ubisoft et Microsoft de proposer donc ces offres d'abonnement en effaçant presque leur plateforme en disant bah on oublie un peu Origin, on oublie Uplay et on se place
ouais,
comme on dit ça. Et alors ce qui est intéressant c'est de voir c'est finalement poser ses billes en se disant bah c'est ça le futur, c'est on oublie notre plateforme et on est juste fournisseur sur voilà, Stadia, fournisseur sur Luna, fournisseur sur sur la Xbox, on peut aussi s'abonner au truc Origin. Ah non, c'est fini maintenant. C'est inclus dans le Game Pass, je pense. Je pense que le Origin c'est... Vault, enfin le Xbox Game Vault machin n'existe plus sur. Corrige-moi si je me trompe.
Il est inclus dans le Game Pass, mais peut-être que tu peux t'y abonner pour 5€ si t'as pas le Game Pass. Ouais, parce que c'est le bac catalogue d'IA qui a seulement 5€, donc je pense qu'il existe
et
toujours.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que. D'autres joueurs, par exemple, enfin d'autres joueurs sur ce marché, comme
d'autres
par exemple
acteurs,
Sony, Nintendo, d'autres acteurs, sur ce marché, comme Sony, Nintendo ou Apple, ne sont pas du tout intéressés par cette idée de vendre des abonnements de services à ces autres acteurs, enfin pour ces autres acteurs, et on voit une grande résistance. Le cas d'Apple était très intéressant. Et je crois que chez Sony, c'est pas non plus très bien parti pour qu'ils accueillent un abonnement Ubisoft quel.
Tu sais que EA est sur la console de Sony désormais, hein, le EA Plus est sur la
console
de Sony.
D'accord, je ne savais pas.
Et oui, ils ont. Il y a eu un petit peu de forcing qui a été fait, mais c'est le cas désormais. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, Sony disait non, nous on veut pas de EA Plus parce que ça serait confusing pour nos joueurs. Ok, d'accord. C'est vrai qu'il y aurait eu plusieurs services d'abonnement différents. Mais ils ont changé leur fusil d'épaule il y a quelques années. Je dirais que c'est vrai que EA et Ubisoft semblent, avec leur sortie sur Steam, dans le cas d'EA, ils sont en train d'amener tous leurs jeux sur Steam, y compris Apex Legends très bientôt d'ailleurs, et puis sur les abonnements sur tous les services. Ils ont clairement changé leur fusil d'épaule, mais je pense que, un petit peu comme on le disait avec Stadia, ils se reposent sur deux ou trois appuis commerciaux. Ils ne sont pas en train d'abandonner ni l'idée de vendre leurs jeux directement à leurs fans sur leur plateforme, ni l'idée de les vendre individuellement plutôt qu'en abonnement. Je pense qu'ils se sont rendus compte qu'il vaut mieux être partout plutôt que de s'isoler. Et c'est vrai que ça va être intéressant de voir si d'autres acteurs suivent la même stratégie.
Bah oui, justement. J'allais te poser la question, est-ce que tu penses que c'est inévitable pour la plupart des grands acteurs, les Square Enix, les Activision Blizzard, de, in fine, ils finiront tous par y passer, ils finiront tous par faire ce shift stratégique et de devenir fournisseur d'un channel sur Luna, sur Stadia, sur Xbox. Est-ce que tu crois que c'est inévitable pour tout le monde ou bien c'est spécifique à certains acteurs?
Je crois que dans le cadre des éditeurs comme EA et Ubisoft, c'est cohérent parce qu'il y a tellement, ils produisent tellement, que ça peut être cohérent de dire plutôt que de vous vendre un jeu on va vous vendre un abonnement et ça peut être intéressant pour les joueurs de prendre un truc où on va payer 15€ par mois, alors que si t'as un jeu tous les deux ans, payer 15€ par mois, bon, on met World of Warcraft de côté, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est pas aussi intéressant. Mais rien n'est exclu, hein. Il est tout à fait possible d'imaginer un service d'abonnement au jeu Capcom pour 5€ par mois par exemple, qui inclurait tous les personnages de Street Fighter, tous les bonus de Monster Hunter, enfin, etc., etc. Si c'est un petit peu moins cher, ça peut fonctionner. Mais c'est vraiment difficile de savoir. Nintendo et Sony se reposent sur des ventes de gros jeux exclusifs, que ça soit parce que c'est des AAA ou des jeux très attendus. C'est pas une stratégie qui fonctionne aussi bien avec un service d'abonnement a priori, parce que, comme je le dis souvent, Sony préférera vous vendre 4 jeux dans l'année à 70 ou 80 euros aujourd'hui. On va dire, ils préféreront vous vendre 200 euros de jeux plutôt que 120 euros d'abonnement. On va dire ça comme ça. Mais l'avantage des abonnements et du cloud, c'est que en 2 minutes, tu peux, j'exagère à peine, mais en 2 mois, tu peux proposer ce genre d'offre. Sony l'a déjà avec le PlayStation Now et ils peuvent très facilement se mettre à inclure plus de jeux dans le service et du coup transformer ça en un truc qui est équivalent à celui des autres acteurs, c'est-à-dire l'abonnement qui vous fournit tous les jeux, même les derniers. Et Nintendo pourrait le faire très facilement aussi, que ce soit en cloud streaming ou pas, avec les différents acteurs qui ont ce genre de service en marque blanche, comme je le disais tout à l'heure. Je réponds pas vraiment à ta question, Guillaume, parce que je crois que c'est impossible de le savoir. Je crois que tout le monde est en mode attente, wait and see, attendons et voyons ce qui se passe. Et c'est
en tout cas,
difficile.
Une chose
de savoir,
que j'ai l'impression quoi. D'observer, c'est que on retrouve une forme de conservatisme du côté du Japon en particulier. Donc les sociétés comme Nintendo, par exemple, je doute qu'on va les voir faire ce shift sur le cloud gaming. En plus, ça me paraît pas stratégiquement, c'est un peu inimaginable pour eux. Mais ce sont toujours les sociétés plutôt américaines, l'Electronic Arts ou Ubisoft, plutôt français, mais très, très, très présent.
On dirait occidental, quoi.
En Amérique du Nord. Ouais, c'est ça, oui. Côté Sony, Sony a le PlayStation Now, c'est vrai, mais ils font ça en traînant des pieds, quoi.
Ouais, complètement. Mais ce que je dirais, c'est que, à mon avis, c'est beaucoup plus lié à une stratégie de développement et une stratégie de studio interne. Nintendo, c'est comme Sony, ils vont te vendre 4 ou 5 jeux par an parce que les fans de Nintendo sont très dédiés à la marque, parce que les jeux sont de qualité et c'est les jeux qu'ils demandent. Donc, je crois que c'est plus, stratégie financière que traîner des pieds parce qu'on comprend pas ce qui est en train de se passer ou parce qu'on n'a pas envie d'y aller. Mais j'aurais envie de te dire oui, il y en a d'autres qui vont s'annoncer, je crois que ça sera le cas, mais je pense qu'on est plutôt dans un moment où les gens attendent de voir ce qui se passe en préparant le cas où. Donc on conclut avec le cloud streaming en disant que Facebook se lance aussi. Alors il y aurait plein de choses à dire sur Facebook. C'est essentiellement des jeux plutôt free-to-play, plutôt mobile, on va dire, type jeu mobile. Mais on peut désormais, alors c'est en test aux États-Unis, dans certains États des États-Unis, et on peut jouer sur Facebook à des jeux en streaming. Donc, vous connaissez bien la technologie streaming. Ils commencent comme ça. Ils ont tout à fait et facilement la possibilité d'aller beaucoup plus loin et même dans des domaines où on ne les attend pas. Facebook, ils sont plutôt en interne dans leur petit jardin isolé et c'est ce qu'ils font depuis très longtemps. Mais même dans ce jardin, ils ont des possibilités d'extension et à voir s'ils peuvent en sortir à un moment avec le streaming. C'est tout à fait possible, quoi. Et puis on va conclure avec quelques news en vrac. Genshin Impact, dont on parlait il y a une ou deux semaines, on a l'information de Sensor Tower qui fait toujours des estimations, hein. C'est pas des chiffres officiels, mais ils auraient déjà récupéré 245 millions de dollars en quoi, un mois d'existence. C'est le plus gros lancement de jeux mobiles de l'histoire des jeux mobiles. Alors on dit jeux mobiles, il est aussi disponible sur PC et sur PlayStation 4. Donc, je serais curieux de savoir si c'est compté dans les revenus. J'imagine que oui, mais c'est encore, ça confirme ce qu'on se disait la dernière fois, qui est, c'est tellement important comme événement le fait d'avoir un jeu type mobile avec un business model type mobile et un jeu chinois, que ça va forcément faire des émules. Et je lisais une analyse de Daniel Ahmad, l'un des analystes gaming de Twitter, bon, qui travaille dans une firme d'analyse, hein, mais qui est vraiment très très bon, que j'ai reçu dans Pixels à plus d'une reprise, qui disait, c'est vraiment intéressant de voir le développement des studios de développement justement chinois qui faisaient de la, comment dire, du sous-traitant, de la sous-traitance il y a 15 ans et qui aujourd'hui développent des jeux vraiment ambitieux comme Genshin Impact entièrement en interne. Donc bon, je crois que ça confirme que la Chine arrive. Haven, le nouveau jeu des Game Bakers, vous vous souvenez de Fury, il faudrait que je le relance Fury d'ailleurs, et ben il arrive le 3 décembre lui aussi. C'est pas du tout comme Fury, Haven, c'est un jeu avec de l'action et du combat quand même, mais où on joue deux personnages en collaboratif, en coopératif, et qui est censé explorer la... C'est un peu plus narratif, et c'est censé explorer la relation entre les deux, et bref, c'est encore un jeu à surveiller du coin de l'œil pour cette fin d'année. Je n'en reviens pas du nombre de jeux qu'on va avoir à regarder. Black Ops Cold War, il y a un mode Zombie Onslaught, qui est un élément du mode zombie. Il sera exclusif à la PlayStation 4, PlayStation 5 pendant un an, donc les deals commerciaux entre Activision et Sony continue. Nintendo sort le tout premier Fire Emblem sur Switch. Ça ne serait pas forcément une information ultra importante, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils le sortent pour 6 mois seulement. Donc, c'est encore l'une de ces pratiques commerciales douteuses, on va dire, de la part de Big N, qui vous essaye de vous pousser à l'acheter, même si vous ne le voulez pas vraiment, parce qu'il sera uniquement disponible pendant 6 mois. Bon, il ne coûte que 5 ou 6 euros. Hein, donc, et le premier Fire Emblem, il était disponible, il est sorti en 1990, rendez-vous compte. D'ailleurs, j'ai vu un tweet marrant où quelqu'un montrait ce qu'on imagine qu'étaient les Final Fantasy il y a 20 ans contre ce que c'était vraiment. Bon, je vous invite à aller regarder ce qu'était Final Fantasy il y a 20 ans. C'est peut-être pas ce que vous pensez. Donc on l'a dit, Apex Legends arrive sur Steam le 4 novembre. On a une série Assassin's Creed qui est annoncée sur Netflix. Je sais qu'on va beaucoup rire à cette annonce, mais moi je trouve que c'est toujours intéressant, et puis Netflix est plutôt bien démerdé, donc Assassin's Creed, je suis très curieux de voir ce qu'il ferait avec.
C'est une série live action, une série animée et une série animée à l'anglais, donc Japanese anime, quoi. Donc une série manga, quoi, si tu veux.
Mais c'est une série live action. C'est une série.
Non, les trois. Il y a live action, animé et Japanimation.
Ah, d'accord. Écoute, j'ai pas bien lu la news alors. Il y a les trois. Eh ben écoute, si ils sont en train de nous construire un Assassin's Creed Universe. Bon, ceci dit, s'il y a une licence qui pourrait accommoder tout ça, c'est bien la licence Assassin's Creed, hein, parce que on pourrait faire des trucs qui se répondent l'un l'autre. Ça pourrait être sympa.
Agree to disagree.
Et la dernière chose que je voulais évoquer, c'est cette mention, ce tweet de Alex Hutchinson qui travaille pour Google pour Stadia, qui a fait beaucoup de bruit ces derniers jours. Il a dit sur Twitter, les streamers devraient payer les éditeurs de jeux pour streamer leurs jeux parce que ils utilisent le contenu des développeurs, ils utilisent les IP des développeurs. Et donc, ils devraient payer pour ça. C'était suite aux questions de DMCA, de strike sur Twitch les dernières semaines. Alors, tout le monde a réagi de manière assez agressive à ce tweet et il s'en est pris un petit peu plein la gueule, ce qu'on peut comprendre, honnêtement, parce que c'est une déclaration un petit peu controversée. Il le savait, controversiale, il le savait. Le truc que je trouve intéressant dans tout ça, c'est que pour moi... Le problème, ce n'est pas que les développeurs ne devraient pas avoir le droit de demander de l'argent aux gens qui streament leurs jeux. Je pense qu'ils pourraient, parce que c'est une utilisation un petit peu particulière. C'est vrai que les streamers font de l'argent en utilisant leur contenu. Donc, en théorie, je crois qu'on pourrait discuter de la question, est-ce qu'ils ont le droit ou pas. Mais la réalité, la chose qui est vraiment intéressante, c'est que peu importe les propos d'Alex Hutchinson, les développeurs ne veulent pas faire ça. Parce que pour eux, ils ont bien compris, ou en tout cas, ils estiment, je ne veux pas introduire de biais personnel, mais ils semblent estimer qu'il est plus avantageux pour eux que les streamers puissent jouer à leur jeu sans avoir à payer. On sait que certains ont essayé de contrôler les influenceurs et la manière dont leur contenu était utilisé sur ces plateformes. On pense notamment à Nintendo avec, je ne sais plus comment s'appelait leur club, le Nintendo Creators, leur machin, où ils prenaient 30% des revenus des gens qui faisaient des vidéos YouTube sur Nintendo. Bon, bah, ils ont abandonné ça au bout de 2 ans parce qu'ils se sont rendus compte que ça ne rapportait pas grand-chose et que ça empêchait... Ça a supprimé la publicité. Donc, publicité, on est payé en publicité, on a de la visibilité, on n'en a pas. Tout ça, peu importe. Les développeurs pourraient tenter de bloquer ça. Ils choisissent de ne pas le faire parce que pour eux, le contenu a de la valeur et ça fait de la publicité pour eux. Enfin, c'est ce que j'estime. C'est la raison pour laquelle ils ne le font pas, je pense. Donc, les propos d'Alex Hutchinson et les avis qu'on peut avoir sur ses propos et sur ce que devraient ou ne devraient pas faire les développeurs... n'ont pas de sens, n'ont pas de... C'est pas qu'ils n'ont pas de sens, mais n'ont pas d'intérêt parce que les développeurs pourraient déjà le faire et ils décident de ne pas le faire. Donc voilà, ça règle le problème. Pour moi, c'est ça qui est beaucoup plus important que le fait de dire « Mais Alex est un abruti !» Non, il faudrait autoriser les streamers à streamer leur jeu parce qu'ils l'ont payé et donc ils le... Oui et non, ça c'est plus compliqué que ça. Mais bon, bref.
Au-delà du fond où on peut être d'accord ou pas d'accord, sur la forme, c'était clairement maladroit. Et d'ailleurs, on peut clairement constater qu'il a eu un talking to, puisque dans sa bio Twitter, auparavant, il avait écrit Creative Director at Google Stadia. Et puis, ça a été changé pour préciser qu'il n'est absolument pas au top de Google Stadia. Et puis, il y a eu, tu sais, Google Stadia, c'est une marque qui galère un petit peu, clairement. Ils n'ont pas la popularité qu'ils aimeraient avoir. Et on a pu voir les comptes Twitter de directeur marketing de par exemple de YouTube Gaming pour dire ouais on est très heureux d'accueillir tous les YouTubers qui voilà etc. Et donc tu te dis mais ce gars aurait dû réfléchir un peu quoi. Enfin c'est sûr. Tellement maladroit de sa part.
On est assez d'accord. Bon bah écoutez, ça va être la fin de ce formidable épisode communautaire. C'était sympathique de discuter de tout ça avec vous. On va conclure en remerciant Kassim, Dragomodo, Giko, Saku.net, Tuto et You. FR qui ont participé à tout ça. J'oublie Dermins qui nous disait qu'il était juste là pour écouter. Mais merci à vous tous et merci à tous ceux qui ont suivi sur Twitch également. Pour ma part, je suis NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram, bien sûr. Vous pouvez également retrouver tous les liens de tout ce dont j'ai parlé sur notepatrick.com, y compris le lien vers le Discord, mais aussi le lien pour s'abonner à la newsletter que je publie toutes les semaines, mais aussi et surtout le lien vers le Patreon du rendez-vous jeu où vous pouvez soutenir l'émission. C'est très simple, c'est patreon.com/rdvjeu et vous pouvez choisir comment vous soutenez. Je vous l'ai déjà expliqué, c'est le moment maintenant que l'émission se termine. Vous pouvez le faire depuis votre mobile, depuis quand vous rentrez à la maison. Vous n'oubliez pas, en mettant les clés dans le bol et en enlevant vos chaussures, parce qu'on enlève ses chaussures quand on rentre à la maison, vous pouvez aller soutenir sur patreon.com/rdvjeu et bien sûr vous abonner à la chaîne youtube.com/NotePatrick. De toute façon, c'est NotePatrick partout. Hein. C'est très simple. Vous cherchez NotePatrick, vous me retrouverez. Je vous fais de grosses, grosses bises et on se retrouve dans une semaine. Et dans une semaine, on sera le 5 novembre, ce qui veut dire qu'on sera à moins d'une semaine de la sortie de la Xbox Series X. Très, très excitant tout ça. Je vous fais de grosses, grosses bises et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Tu trouves, Kassim, qu'on a passé trop peu de temps sur la PlayStation 5 ?
Oui, exactement. Je pense qu'on a passé trop peu de temps sur la PlayStation 5. Tu as enchaîné les sujets de façon, en les présentant de façon vraiment parfaitement viable et très intéressante, etc. Mais peut-être les gens n'osaient pas, vu que c'est le début de l'émission, n'osaient pas autant participer. Thomas, sur le sujet Nintendo, était tout de suite chaud pour participer. Parce
que c'est vraiment... Et c'est alors, dites-moi.
C'est son jeu de... Non, mais c'est son jeu de l'année. En de la Nintendo, c'est son jeu de l'année. Donc...
Après, on n'a pas interrompu parce que les règles, c'était si vous voulez participer, dites-le dans le chat. Et après, tu disais, bah alors, personne parle
Non, mais
c'est
non.
Exactement ça, ouais.
C'est pas vrai, c'est pas vrai. Personne n'a dit, dites-le dans... personne ne le disait dans le chat qui voulait parler. Donc je disais, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Dans le chat, il y a eu personne qui a dit, ouais, moi, je veux dire quelque chose.
Donc, je pense que c'est difficile.
C'est vrai, c'est vrai.
Je pense que c'est mieux la règle du tu t'unmute mais tu ne parles pas.
C'est vrai que c'est une indication déjà. Vous avez écouté, monsieur Ketfi, vous avez tout à fait raison. Unmuté égale je veux parler, c'est parfait. Mais du coup, maintenant je suis en train d'enregistrer à nouveau. On va voir s'il y aura quelque chose à ajouter dans l'émission. Mais PlayStation 5, il y a des sujets que vous auriez voulu discuter. Vous pouvez vous unmuter pour m'indiquer que vous voulez dire quelque chose et parler tous en même temps. On s'en fout, c'est après l'émission là. Qu'est-ce que vous vouliez dire sur la PlayStation 5? Vas-y, Jules.
Ah voilà, moi, soutenez-moi là.
Moi, c'est juste un petit truc comme ça. C'était sur le fait que tu sais, ils disent que les 12 premières heures, ils ont vendu autant de PS5 que les 12 premières semaines que la PS4. Je crois que c'est ça la news.
Ouais.
Il me semble, eh ben, je trouvais que la PS4 à l'époque, c'était en 2013 qu'elle est sortie, et à l'époque, commander ou précommander sur internet, c'était pas aussi c'était pas encore assez répandu.
Oui, tu veux dire qu'aujourd'hui on a vraiment la...
Aujourd'hui on a davantage confiance à commander sur internet, sur Amazon, LDLC, sur ci, sur ça, et je pense que du coup les chiffres maintenant sont beaucoup plus importants de ce côté-là. Et
je comprends ce que tu veux
Sony
dire.
Sony même l'avait prévu parce que bon, ils sortent pas non plus des consoles tous les 6 mois. C'est pas comme des iPhones qui sortent tous les ans ou des choses comme ça quoi. C'est des trucs qui sortent une fois tous les 10 ans presque. Du coup, les mecs, je pense qu'ils étaient peut-être pas trop chauds.
Ça sortait une fois tous les 10 ans avant, mais maintenant il y a les half-step consoles, les upgrades.
Oui, mais c'est pas aussi
moyenne génération.
Oui, mais c'est pas un aussi bon événement.
Donc c'est intéressant. C'est intéressant de voir que justement, ça aurait pu freiner les ventes et ça aurait pu dire bah non, je ne vais pas acheter la PS5, j'ai déjà ma PS4 Pro, même si rien qu'en prononçant cette phrase, je ne trouve pas très convaincante.
Non, je pense que personne ne s'est dit. Au contraire, quelqu'un qui a une PS4 Pro et quelqu'un qui est plus investi dans le truc, et donc, ouais.
Ok. Pour la PlayStation, ça ne marche pas trop, mais pour la Series S, est assez proche en termes de performance de la One X, par exemple.
Là aussi, ça se discute. Bon,
t'as toutes les nouvelles technologies AMD qui rentrent dedans et qui rendent quand même la console puissante. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais il y a eu le petit troll de Microsoft après la conf AMD qui disait oui, bah voilà, ils ont présenté des trucs RDNA2. Sachez qu'il n'y a que chez Microsoft que vous aurez du true ou du full RDNA2. Je sais pas ce qu'ils ont dit. Mais sous-entendu que la console de Sony était un peu en retard.
C'est vrai qu'on avait eu des rumeurs selon lesquelles la console de Sony était basée sur un hybride entre le RDNA 1 et le RDNA 2, donc ça semblerait potentiellement le confirmer. Ouais.
Ah, surtout que dans l'article, ils mentionnent qu'ils ont, ils disent qu'ils ont attendu patiemment que l'architecture soit terminée pour l'intégrer, pour vous les développeurs et les joueurs, vraiment, la main sur le cœur, vraiment. Voilà.
Pour toi, public, c'est ça.
Exactement. Non, mais sur la PlayStation 5, je voulais juste dire aussi un bémol pour ajouter en plus à ce que disait Dragon Modo, que les 12 semaines là, de la PlayStation 4, les précommandes étaient complètement différentes aussi en termes de timeline, dans le sens où la PlayStation 4, les précommandes, c'était dès le mois de juin, où tu avais 6 mois pour précommander, là où la PlayStation 5, c'était en septembre, à 2 mois de la sortie. Et du coup, c'est logique aussi que la demande, à mon avis, soit plus forte pour la PlayStation 5 que la PlayStation 4 en son temps. Et puis en plus, avec le coronavirus, l'année est quand même vachement particulière et je pense que tu as tout intérêt à vouloir précommander cette année, plus que n'importe quelle autre.
D'accord, je suis d'accord avec mais vous m'accorderez que, ok, ça explique peut-être une augmentation de la demande, mais vous m'accorderez qu'on a l'impression quand même que la demande est plus forte pour la PS5 qu'à l'époque de la PS4.
Ah, mais ça, on n'est pas le contraire.
D'accord.
Totalement d'accord. Juste, je tempère les chiffres un peu foufou de Sony.
Je comprends, oui.
Les chiffres qui veulent communiquer.
Ouais, voilà, c'est ça.
On verra les chiffres. Ce qui sera, de toute façon, en vrai, là, ce qui sera intéressant, c'est les chiffres de vente, notamment les premières semaines au Japon.
c'est pas faux. Bon, il y a d'autres choses que vous vouliez ajouter. On laissera peut-être ça en after show dans l'émission. Ou je sais pas, peut-être qu'on le mettra à tout le monde. C'est un after show pour tout le monde. Vous vouliez ajouter autre chose?
Moi, mini-réflexion sur les consoles mid-gen, et particulièrement pour la PS5, je me demande si, alors, si on ajoute au fait que pendant plein de mois, la personne, entre guillemets, personne va arriver à avoir sa PS5, et vu la taille qui est assez particulière de la console, est-ce que t'as pas des gens qui vont se dire, bon, est-ce que j'attendrai pas un petit peu finalement, parce que bah, ça va, je m'en sors avec la console actuelle ou j'ai autre chose et tout ça. Ou alors peut-être que je prends une Xbox
pour attendre une slim, quoi, une sorte de slim.
Et ouais, c'est ça, et attendre la mid-gen de la PS5, la PS5 Pro 2, peu importe. RDNA 2, à ce coup-ci.
Je suis en plein conflit personnel, mais je suis exactement dans ce cas-là. Sauf que j'essaye de me convaincre en discutant avec ma femme et tout, mais c'est compliqué. C'est compliqué.
J'ai des collègues qui ont annulé la précommande de la PlayStation 5 à cause de la taille de la PlayStation. Enfin, parce qu'ils veulent attendre la
PlayStation. À ce point-là, j'imagine que c'est quand même assez c'est une petite partie des gens qui veulent une PlayStation 5 quand même.
Je pense évidemment que la demande est beaucoup plus importante. Enfin, la hype étant tellement forte, et puis tout le monde veut jouer au prochain Spider-Man et tout, que les gens font avec, en fait, entre guillemets. Et je pense que l'attrait pour la console est supérieur à son défaut de design, entre guillemets, enfin son problème de design.
Ouais.
Mais par contre, clairement, quand tu la vois, c'est pas tant un point négatif de la PlayStation 5 que ça va être un point ultra positif, je pense, de la prochaine PlayStation Slim, du coup. Je pense qu'elle va se cartonner la PlayStation Slim justement par opposition, comme dans toute proportion gardée, la Xbox One S en son temps par rapport à la première Xbox One qui faisait magnétoscope. Là, je pense qu'il y a eu un regain d'intérêt pour la Xbox à ce moment-là, toute proportion gardée encore une fois. Et je pense que la PlayStation 5 va cartonner quand elle va arriver en version Slim. Quoi.
Moi, j'ai un pote qui avait un autre argument. Pour lui, il voulait pas prendre la PS5 qui va sortir maintenant. Il voulait attendre la Pro parce que il disait que pour la PS4, ils avaient annoncé du 1080p 60 fps et sur les jeux. Et je crois qu'ils ont dû attendre du coup la Pro pour que ça reste sur les jeux à cette performance. Il me disait là la PS5 Pro annonce du 4K 60 fps. Il me disait avec la puissance qu'il y a maintenant, les jeux avant qu'il y ait la Pro jamais ils atteindront. Le framerate qui a demandé, et du coup, il m'a dit j'attendrai la Pro qu'elle sorte.
Ouais, mais là, c'est le problème du PC, et tu te mets à attendre tout jusqu'à la fin des temps, parce que. et surtout du côté de Microsoft, c'est ça.
Oui,
moi,
c'est
je pense
sûr,
que.
Mais au final, c'est quand même des. Enfin, c'est quand même quelque chose pour lequel tu signes, quoi. Tu vois, tu te dis, moi, je veux 460 FPS, et on te dit pendant des années, les jeux arriveront plus tard.
Ouais, mais ça. Le 4K 60 FPS, franchement, le problème de la fréquence d'affichage, c'est un truc dont je parle souvent, dont je parle quand on parle de ça. Il y a trois leviers pour la qualité des graphismes, et chacun influence les autres. Un levier, c'est la qualité de la modélisation, vraiment, la complexité de la modélisation, des triangles affichés. Il y a de l'autre, la résolution. Plus elle est élevée, plus ça demande de la puissance de calcul. Et le troisième, c'est la fréquence d'affichage. Et si tu réduis l'un, tu peux augmenter les autres. Et malgré ce que voudraient ce que j'appelle les ayatollahs du FPS, c'est-à-dire du 60 FPS ou même, pourquoi pas, du 120 FPS partout, quand tu mets la molette à 30, tu as plus de puissance que tu peux attribuer à la complexité de la modélisation, au ray tracing ou à une meilleure résolution, etc. Donc, tu peux mettre 5, 10, 20, 40 teraflops, tu auras toujours un intérêt à passer en 30, à moins qu'il y ait des circuits spécialisés qui vont te dire « je te fais ça en 60 FPS avec de l'intelligence artificielle et du deep learning pour zéro coût de puissance de calcul et donc on pourra avoir du 60 ou plus, pourquoi pas, c'est possible, ça peut tout à fait arriver, mais dans l'état actuel de la technologie, même si tu as 150 teraflops, tu auras toujours un intérêt à passer en 30 FPS et attribuer la puissance que tu récupères à la complexité graphique ou à la résolution ou à ce que c'est. Donc, les 60 FPS, ça y est, on a enfin 60 FPS sur les consoles. Il y en aura peut-être plus qu'ailleurs, mais quand on voit que certains jeux ont du mal à attendre les 30 avec la génération précédente, évidemment qu'on a toujours un intérêt à avoir plus de complexité graphique pour certains jeux. Donc, bref.
Ça reste à débattre, mais je vois ce que tu veux dire.
Bon, écoutez, dernier point que
je voulais aborder avant. Ouais, en fait, la seule chose qui me fait envie en tant que PCiste quand je regarde la PlayStation 5, c'est sa manette et en particulier l'espèce de HD Rumble qui fait que apparemment quand ton personnage se balade dans le sable, t'as l'impression que tes doigts sont dans le sable, enfin des trucs assez assez impressionnants au niveau du moteur de vibration.
Moi c'est pas du tout.
C'est la. Ah non, c'est le seul truc qui m'intéresse. Attends, tu disais quoi ?
C'est les gâchettes à retour de force, moi, qui m'intéresse. Le côté de pouvoir tendre une gâchette. Enfin, j'ai vraiment hâte de tester ça, de pouvoir
avoir
une gâchette qui soit plus résistante selon les situations et tout. Là, ça me.
De manière générale, c'est la manette qui m'intéresse et je me demande si je vais avoir droit, in fine, à cette technologie-là sur PC ou pas.
À voir. Peut-être dans quelques années, pourquoi pas. Hein. Mais c'est vrai que, étonnamment, on nous promet des belles choses avec chaque génération, avec chaque manette. Généralement, c'est plutôt raté. On se souvient de la manette de la PS4 avec son touchpad qui était plutôt underwhelming. C'est ça, exactement, le bouton de carte. Là, ça pourrait être quelque chose de sympa avec ces effets de résistance et tout ça. Donc, bon, écoutez, on verra. Je coupe l'after show. Ça, c'est ce à quoi vous pouvez vous attendre. Là, je vais mettre cet after show dans les deux versions de l'épisode parce qu'on a discuté de sujets dont on parlait dans l'épisode. Et puis, bon, c'est la fête, c'est communautaire. Mais c'est ce à quoi vous pouvez attendre pour les after shows qui sont disponibles pour les Patriotes uniquement dans le flux privé où il n'y a pas les pubs, où il y a tout ça. Donc, merci à vous d'avoir participé encore une fois et je vous fais des bises. Ciao.